Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur. Ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu. Ô Notre-Dame de tout enfant de Dieu, vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute humanité. Ô Notre-Dame, sur toute humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame de la clarté de Dieu.
Voilà, et bien cet après-midi est consacré donc à une réflexion sur la passion du Christ. Alors j'avais commencé par faire une relecture, et on verra si jamais des personnes en sont intéressées, avec aussi les visions de Catherine Emmerich, qui a donc des visions sur toute la passion. Et j'avais découpé, je pourrais quand même vous le proposer pour ceux qui le voudront, mais c'est quand même très difficile, de découper tous les moments de la passion du Christ à partir du jeudi soir, donc on entre dans donc la passion, et jusqu'au vendredi, après la mort du Christ, et après, non mais plus loin encore, après l'ensevelissement. Alors de façon telle que ça corresponde avec les horaires, oui, si on veut, des horaires liturgiques. Bon, c'est un travail que je me suis dit, peut-être je pourrais vous le présenter, mais en fait, je me suis posé après la question, est-ce que ça va vous intéresser? Ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est un travail difficile, même pour moi qui l'ai fait, parce qu'il faut avoir du temps, vraiment consacré, vraiment du temps, depuis le jeudi soir jusqu'au vendredi, de passer les heures, 8 heures, 9 heures, 11 heures, etc., quoi, toutes les différentes heures liturgiques, où à chaque heure liturgique correspond un passage de la passion du Christ. Alors, ce que je pourrais vous faire, c'est vous le donner. On pourra peut-être le passer, si vous voulez, à la Manguier. Hein. Mais il m'a semblé que c'est peut-être pas ce que vous attendez le plus, parce que vous n'avez pas, moi de temps en temps c'est pareil, vous n'avez pas peut-être les disponibilités pour pouvoir effectivement consacrer depuis le jeudi des Vêpres, ensuite la nuit et tous les différents moments qu'on vit d'ailleurs, hein, au moment du Vendredi Saint ensemble, quand on célèbre la Passion. Mais là c'était pour répartir, si on veut, Saint Jean, par exemple, l'évangile selon Saint Jean, avec des apports de Catherine Emmerich, de sa vision, pour qui est offré, mais qui reste absolument conforme à Saint Jean, et qui permettrait donc une célébration. Donc, je laisse de côté, et si jamais ça vous intéresse, on pourra le passer à l'amendier. Et si vous voulez si vous voulez ensuite le célébrer de temps en temps, certaines heures, vous pourrez donc à votre disposition. Hein. Voilà pour ça. Donc, ayant après réfléchi que, en fait, c'était peut-être un peu trop difficile, je me suis dit, il vaut mieux maintenant faire une réflexion. Alors, c'est ce que je vous propose, de faire une réflexion sur la passion du Christ, qui serait, on pourrait aller jusqu'au goûter, s'arrêter, prendre le goûter, et après le goûter, si vous voulez bien, si ça vous intéresse, de faire une célébration de la passion du Christ entre nous. Hein. Une paix qui serait donc, comment je veux dire, là c'est un office liturgique, d'une certaine façon, sanctifié bien sûr, hein, mais qui permettrait quand même de prier ensemble la passion du Christ. Donc il y aurait la réflexion d'un côté, et ensuite, à la reprise, il y aurait la célébration. La célébration, si ça coïncidait avec la liberté qu'on pourrait avoir pour la chapelle, ce serait mieux qu'on le fasse à la chapelle. Ben, sinon, on pourrait le faire ici. Hein. Voilà.
J'ai vu une affiche tout à l'heure, c'est de 14h à 17h, il y a l'adoration à la chapelle.
Ah, il y a l'adoration à la chapelle. Et nous, ce serait après le goûter, nous.
Après, ici, ils sont à 17h45, ils ont les vêtements.
17h30.
Ouais, écoutez, on verra.
30,
hein,
donc, ça sera trop de temps.
Donc, la passion du Christ. Alors, chaque année, nous revivons ensemble, avec cette grande grâce que nous avons, de vivre vraiment la passion du Christ, la nuit, jusqu'au fur et à mesure des heures. Nous lisons dans Saint Jean, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Saint Jean 13, 1. C'est donc à cette heure que s'accomplit le mystère de celui que le Père a envoyé pour la vie et le salut du monde. Le Christ a livré le message de l'amour du Père pendant 3 années de son ministère en Galilée et à Jérusalem. Beaucoup l'ont reçu, l'ont accueilli, mais d'autres, offusqués par des paroles pour eux incompréhensibles, comme le fait de manger son corps et de boire son sang, ou encore de sa prétention à se dire fils de Dieu, avec les mêmes prérogatives divines, tout cela l'ont quitté. À ses disciples, Jésus leur a posé la question qui brûle son cœur. « Et vous, voulez-vous aussi me quitter ?» Et Pierre alors répondit au nom des 12, « Mais vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Alors Jésus répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous ?» Les 12, et l'un de vous est un démon. Jean 6, 67, 70. Cette précieuse préscience de Jésus va devenir une réalité, puisque la trahison va s'installer au cœur de la passion. Et le premier acte, c'est le repas pascal, avec le lavement des pieds. C'est ce que nous lisons en Jean 13, 1, 20. Jésus lave les pieds de ses disciples, les uns après les autres. Pierre ne peut pas supporter de voir son maître à ses pieds. Et avec sa fougue habituelle, il refuse. Mais il se rend aussi vite lorsqu'il entend le Seigneur lui dire que, sans cette acceptation, il n'est plus des siens, de sa communauté d'humbles services de l'amour. Alors arrive le tour de Judas, qui tend, comme les autres, à ses pieds. Jésus, sans rien dire, le lave aussi. Il semble que les disciples ne comprennent pas le geste de Jésus, de leur laver les pieds. Alors le maître leur explique ce qui sera l'attitude essentielle qu'ils auront à observer, le message de l'humilité que l'Église devra porter en son cœur. Ce message ne peut se réaliser qu'à la seule condition que le maître lui-même soit le modèle du serviteur. Après la passion, les disciples reliront l'annonce du serviteur souffrant d'Isaïe que Jésus prend à son compte en cette heure extrême. Et le repas se poursuit. Quand Jésus se remet à table, et pendant quelques heures, le cœur du maître va laisser s'épancher son amour. C'est les grands passages de Saint Jean 17. Et voici qu'une scène inattendue va se produire. L'annonce tragique de la trahison du disciple choisi pour être l'un des douze. Et cette scène a une importance considérable pour donner le sens du sacrifice du Christ. C'est la trahison de Judas. Au moment où va se réaliser cette trahison, il ne s'agit pas d'une possession de Judas par Satan. Elle aura lieu plutôt par étapes. Au moment du lavement des pieds, rien n'est encore définitif. Jésus a néanmoins la prescience de la trahison et il va en avertir Judas qu'il garde toujours parmi les douze. Il voit que son disciple est sur une pente tragique pour lui. Et la trahison, à ce moment-là, est simplement annoncée. L'avertissement est donné. Elle aura son effet tout à l'heure. Mais est-elle nécessaire pour la passion, pour que la passion ait lieu ? C'est une aubaine pour les autorités qui voient simplifier la façon d'arrêter Jésus qu'ils veulent mettre à mort. Le véritable metteur en scène est bien sûr Satan, qui profite de la faiblesse de Judas, comme jadis il avait profité de la faiblesse d'Ève pour accomplir son dessein d'éliminer Jésus qui risque de lui faire perdre son empire et son pouvoir maléfique. En fait, la passion aurait eu lieu par un autre stratagème, car les autorités, de toute façon, avaient décidé la mort du gêneur. Mais la trahison de Judas va donner à la passion une dimension beaucoup plus tragique, puisqu'elle représente le drame de toutes les traditions, toutes les trahisons diverses des hommes depuis le péché du monde jusqu'à aujourd'hui encore. Et à ce moment remonte en moi le souvenir d'une trahison que subit un de mes amis trop confiant vers son collaborateur au cœur un jour. Il donna la signature d'une entreprise de menuiserie qu'il avait montée. Et lorsqu'il revint un matin à son bureau pour prendre son travail de la journée, il voit devant lui quelqu'un, ce collaborateur, qui lui dit « Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Et l'autre le regarde et lui dit « Mais enfin, quand même !» Et en fait, le collaborateur était devenu propriétaire d'un seul coup. Et cet ami avait tout perdu. Ce qui est extraordinaire, le jour où il me raconta cette trahison, fut de me dire qu'il avait pardonné. Il avait pardonné parce qu'il était chrétien, m'a-t-il dit. D'où pouvait lui venir une telle force de pardon, sinon du maître qui, à cette heure même, était en train de pardonner tous les hommes pour le salut du monde. Ce qui se réalisait à ce moment-là s'est réalisé pour cet homme et continue à se réaliser aujourd'hui pour un tel et un tel. La passion est aujourd'hui. Judas reçoit donc l'avertissement. Il ne s'est pas encore éloigné de la communion. Mais combien de fois le Seigneur Jésus, tout au long de l'Évangile, de la fréquentation qu'il a eue pendant ces 3 ans, combien de fois Jésus a dû lui faire des petites remarques, alors qu'il était très convaincu que cet ami-là allait le trahir. Alors, ce n'est pas qu'intellectuel quand nous pensons à ça. Nous pensons à la souffrance du cœur du Seigneur Jésus avec cet ami qu'il a choisi et qu'il voit s'éloigner dans toute sa liberté à lui. Un avertissement de plusieurs fois, certainement, il a dû lui faire la remarque qu'il était un voleur, il fallait faire attention. Cet avertissement que le Seigneur nous donne aussi à chacun de nous, à travers des petites choses, des petits actes, qui en se répétant aboutissent un jour à la perversion totale du cœur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le pire pour Judas n'est pas encore arrivé au moment où ils sont là à table en train de vivre ce moment avec le Christ, ce repas avec lui. Jésus respecte la libre détermination de son disciple et une dernière fois, il va essayer de le sauver. Le repas se poursuit. Jésus va consacrer le pain en son corps, la coupe du vin en son sang. Ce sera la dernière des 5 coupes du repas pascal, la coupe dit d'Élie le prophète, que debout salue alors les convives. Judas semble toujours là. Et pourtant, il est difficile de penser qu'il a pu prendre la communion avec les autres disciples. Un dernier geste de Jésus vis-à-vis de lui va le conduire vers une autre communion. Le drame va se jouer avec 2 éléments, la bouchée et l'agneau. La bouchée. Jésus parle maintenant du rejet qu'il a dû endurer de la part de ceux qu'il est venu sauver. Et il reprend une citation du psaume 41:10, « Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. » Et il annonce alors la trahison de l'ami. Mais lequel des 12? Le disciple que Jésus aimait se penche alors vers la poitrine du maître, à la demande de Pierre. À sa demande, Jésus prend une bouchée qu'il va offrir à Judas. Il ne prononce pas le nom du traître. Il le désigne par ce geste. Judas prend la bouchée. Alors c'est irrémédiable. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouchée ? Peut-on penser qu'il s'agit d'une Eucharistie inversée ? Il faudrait peut-être s'expliquer sur cette interprétation. L'Eucharistie que nous vivons nous rend participants du Christ, puisque nous mangeons son corps et buvons son sang, c'est-à-dire sa propre vie. L'Eucharistie inversée serait alors son contraire, c'est-à-dire une union au démon, et qui se fait, vous savez, par des célébrations sataniques de différentes façons. Saint Paul, dans sa mise en garde contre des pratiques païenne dit que le fait de manger des viandes immolées aux démons crée une communion avec eux. Et il ajoute, « Je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer en même temps à la table du Seigneur et à la table des démons. » 1 Corinthiens 10, 21. Est-ce que Jésus, en offrant la bouchée à Judas, le condamne parce qu'il est sur le point de le trahir définitivement? Chacun de nous peut avoir une réponse à cette question. Personnellement, je ne crois pas. D'une certaine façon, je me demande si ce n'est pas la dernière tentative. Que fait Jésus pour lui comprendre que s'il persévère à le trahir, il entre alors en communion avec les démons et il se perd. Le fait d'offrir la bouchée ne signifie pas immédiatement encore l'entrée de Satan dans l'être de Judas. Il doit rester un espace de détermination. Et il me semble que c'est là où se situe peut-être le paroxysme du drame. Judas pourrait comprendre la portée de ce que signifie ce geste de Jésus qui lui donne la bouchée. Est-il obligé de la prendre? Peut-il encore avoir une liberté pour comprendre et revenir vers le Maître? Mais est-ce que Jésus n'a pas fait tout jusqu'à cet extrême-là pour lui dire le drame dans lequel, la nuit dans laquelle il va s'enfoncer? En elle-même, la bouchée est neutre. Elle n'est pas à ce moment une communion aux démons. Mais elle va le devenir. Si Judas se retourne sur lui-même et comprend que Jésus sait qu'il est sur le point de devenir un traître et qu'il encourt donc le rejet des amis comme conséquence de son acte, alors la bouchée restera neutre. Et ce sera que le signe d'une tentation qui aurait eu lieu dans l'esprit de Judas, mais dont alors il aurait su triompher, le drame n'aurait pas eu lieu. Peut-on aller jusqu'à ce moment, penser à ce moment tragique où Judas va se déterminer d'une façon définitive? Et si Judas, à ce moment-là, avait compris ce geste de Jésus, il est assez intelligent pour le comprendre, et il a reçu certainement aussi une aide de l'esprit pour comprendre ce qu'il allait faire. Eh bien, la passion aurait quand même eu lieu. Cela n'aurait pas arrêté le processus de la passion. Parce que les autorités, en cas d'échec du plan que leur avait offert Judas, en auraient trouvé un autre. D'ailleurs, le procès ne concernera que la question de la divinité de Jésus, de sa prétention à se faire fils de Dieu, de même nature que Dieu, et donc ce qui entraîne le blasphème. Ce motif est suffisant pour arrêter Jésus. Sans qu'il y ait eu besoin de la trahison de quelqu'un de l'entourage de Jésus. Ils ont simplement, ça a aidé quand même les grands prêtres à faire à condamner Jésus. la Providence a voulu intervenir, faire intervenir un traître davantage pour signifier que le Christ devait aussi souffrir pour le pardon de toutes nos trahisons humaines, depuis celle du premier couple. Est-ce que c'est encore une des raisons pour laquelle la trahison pouvait avoir lieu? Mais de toute façon, on peut penser que librement Judas s'engage dans le mystère de l'iniquité, qui n'a qu'un but, soustraire l'homme à Dieu en l'entraînant dans les ténèbres où ce Satan règne en maître. Jésus ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait. Car la volonté divine est avant tout de respecter la liberté accordée à la créature. Dieu intervient en chacun de nous par l'intérieur et par des sollicitations en suscitant l'ouverture de notre cœur à la grâce. Si, quand nous accueillons, alors c'est l'abondance de la vie divine qui vient irriguer notre cœur. L'endurcissement de Judas montre clairement que le péché de trahison est certainement le plus grave de tous les péchés, parce qu'il fait rompre la communion. La communion d'avec Dieu et d'avec les hommes, parce qu'il fait entrer dans la dépendance de Satan. C'est ce que dit Jean en 13:27, la bouchée prise, mais une fois prise, pas avant. Satan entra en lui et Jean ajoute, il faisait nuit, la nuit des ténèbres du mal. Jean 13:27. La coupe de l'agneau immolé. Le drame de la trahison introduit dans la nuit de l'agonie de Gethsémani. Et Dieu y rentre avec son humanité sainte, qui n'a aucune complicité avec le mal, bien sûr, puisqu'il est fils de Dieu. Une humanité tellement étrangère au mal que l'agonie lui fait suer comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22:44. Et Jésus dit, mon âme est triste en mourir, demeurez ici, veillez avec moi. Matthieu 26:38. Et pourtant Jésus reste seul. C'est lui seul et personne d'autre qui doit boire le calice que le Père lui a destiné pour la vie et le salut du monde. Jésus, à cette heure, est le seul devant son destin. Chacun, au fond de lui-même, a une solitude ontologique. Chacun de nous réalise son propre appel à être enfant de Dieu, réalise sa propre vie. Personne ne peut prendre d'autres décisions que celles que moi je prends sur ma vie, sur moi-même. Je suis seul. Personne ne peut être à mon place. C'est cette expérience de la solitude ontologique, une sorte en nous d'abîme, d'où vient l'esprit qui naît dans les profondeurs insaisissables de Dieu, qui nous rend fils de Dieu et qui fait que, à cause de cela, nous connaissons cet abîme de solitude ontologique intime, personnelle, et qu'à ce niveau-là, nous mourrons. Nous sommes les seuls à mourir. Nous mourrons. Il n'y a que soi-même qui meurt. Même si autour de nous, à l'heure de la mort, nous aurons des gens, nous aurons des amis, des frères, des sœurs qui prieront pour nous. Je serai seul, seul pour mourir. Comme Jésus a été seul, seul devant son destin. Et c'est lui, lui seul, qui doit boire le calice que le Père lui a destiné. Échapper à cette solitude personnelle ontologique, pour beaucoup, cette solitude est insupportable. Elle caractérise notre faiblesse humaine qui s'abrite souvent sur l'obéissance non responsable. Combien d'actes de ce genre qui sont justifiés par l'obéissance à l'ordre établi ? Quand même certains ordres sont contraires à la morale. Échapper à la solitude, c'est facile de répondre. Et même dans la vie consacrée, on peut se couvrir très facilement d'ordres donnés par un supérieur pour échapper à notre propre responsabilité qui s'origine dans cette solitude unique, ontologique, profonde, qui fait notre être personnel. Cette solitude essentielle, c'est l'exercice journalier de notre conscience. Pour vivre notre vie de prière sous le regard du Seigneur, pour régler notre vie d'ascèse, nos attitudes fraternelles, nous avons à prier à ce niveau-là de notre profondeur. Et là, je me suis souvenu, et je vous le livre, c'est une chose qui m'a tellement marqué dans ma vie, le souvenir de la mort de mon père. Je me souviens d'avoir assisté dans la nuit, pendant toute la nuit, j'étais à côté de lui pour le veiller. Et au fur et à mesure des heures, il n'a pas dormi de la nuit. Au fur et à mesure des heures de la nuit, seul le silence entre lui et moi, il n'y avait rien d'autre que le silence. Il nous était commun, il nous liait. Et bien, au fur et à mesure du temps, je l'ai senti partir. Partir dans un continent, dans un autre continent qui dérivait progressivement, où je sentais que c'est lui qui partait. Il s'en allait. Et moi, je restais. Je voyais le mystère de sa vie s'accomplir. Mon père était touché par le mystère de Gethsémani. Il aimait chanter la chanson du vieux pressoir. Son âme vibrait alors comme s'il participait à l'agonie du Christ. Et il m'a semblé que c'était ce mystère de solitude qui se produisait alors dans son âme comme une grâce d'union au Christ qui était sa vie et qui s'en allait vers lui et qui m'échappait. Et il était seul à partir. Et moi, j'étais seul à côté de lui pour vivre ce départ. Peut-être vivrons-nous dans l'heure sacrée du passage ce qui était le sens le plus profond de notre existence humaine. Que comme nous aussi, une révélation de nos profondeurs les plus vraies, de notre être uni au Christ. Car la solitude est au cœur du combat de notre union à Dieu. C'est par un choix personnel que nous y entrons. On n'y rentrera jamais par quelque chose d'extérieur, une obéissance extérieure, quelle qu'elle soit. On veut la solitude parce qu'elle porte en elle la présence qu'on recherche. Pour cela, on sort des activités du monde, parce que les préoccupations normales de présence aux autres, la vie de famille, la vie d'amitié, la vie de travail, accaparent notre esprit. Pour nous, les conditions de vie rendent plus facile la vie intime quand on est retiré dans une forme de vie chrétienne. Mais c'est la même solitude concrète, la solitude intime, intérieure du cœur. C'est ce que le Seigneur nous enseigne, ce qu'il a vécu dans cette vie et que nous avons, nous aussi, à vivre. Et tant qu'on n'est pas entré dans cette intimité, dans ce silence intérieur, dans cette profondeur de la solitude intime qui nous anime, il est difficile de penser à la passion du Christ, à ce que le Seigneur, dans cette nuit-là, vit de cette agonie, qui est le dernier grand combat pour l'abandon total à la volonté divine. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Ainsi, dans cette nuit de Gethsémanie, se révèle pour le Christ, le dernier, l'abandon total à la volonté du Père, et pour nous, quand nous célébrons ce mystère de la passion du Christ, c'est ce mystère-là que nous recevons et que nous avons à vivre en union avec le Christ, notre solitude intime, la profondeur de notre être, l'acceptation d'un certain sacrifice de nous-mêmes, le sacrifice spirituel dont parle saint Paul, pour le bien des autres. Par son humanité, Jésus lutte contre tous les refus de l'amour divin, qui sont la contradiction de la liberté, de la profondeur que Dieu a créée en créant notre cœur. Car le fond de toute chose, nous le savons bien, c'est l'amour. L'accomplissement volontaire de l'amour pour lequel nous sommes nés. Et le refus même des ténèbres, c'est le contraire, c'est Satan qui est l'opposition absolue de l'amour. La coupe de l'agneau immolé sera le sang répandu pour le salut du monde. C'est le sang de l'innocent qui paye pour tous les coupables. Tous les coupables que nous sommes. C'est la dette du faux amour, de toutes les corruptions qui défigurent le projet d'amour du Père. Chaque fois que nous buvons le sang de la coupe eucharistique, nous intégrons en nous la passion de l'amour bafoué, de l'amour ressuscité en même temps, mais qui est d'abord l'amour de Gethsémanie. Boire le sang, c'est donc accepter la coupe de l'agonie. Et c'est s'engager, à la suite de tous nos frères, les saints et les saintes, dans ce combat pour la rédemption du monde, le combat de Gethsémani. La coupe que nous buvons au moment de l'Eucharistie a à la fois le goût de la mort et en même temps le goût de la vie. Le goût de la mort dans laquelle le prince de la vie est entré. Le goût de la vie, parce que la mort ne pourra plus jamais détruire cette vie, parce que ce que nous vivons, c'est le sang du Christ. C'est celui qui a accompli parfaitement son sacrifice et qui est devenu le Dieu des morts et des vivants. Boire à la coupe, c'est entrer dans une certaine mort à nous-mêmes, en entrant dans l'alliance d'amour. Cette nouvelle alliance éternelle qui ne déploiera sa grâce, sa gloire, que dans le royaume. Cette coupe, elle est porte, elle est chargée de toute l'histoire antérieure du monde. C'est tout le sang de tous les martyrs. C'est tout le sang de tous ceux qui ont offert la vie. C'est tout le sang de tous ceux qui viendront même plus tard. C'est le sang du Christ, mort ressuscité, dans la plénitude, qui intègre en lui toute l'histoire humaine. Pour comprendre la densité du mystère, il faudra nous tourner vers l'ancienne alliance que la nouvelle reprend en cette nuit, pour la fixer définitivement dans l'éternité. Boire la coupe, manger le corps, c'est annoncer le retour de celui qui est vainqueur. L'agneau que Jean discerne dans l'Apocalypse, le cantique de l'agneau chanté par tous ceux qui ont triomphé de la bête, grande, merveilleuse, sont tes œuvres, Seigneur, maître de tout. Et Jésus, à ce moment-là, va réaliser dans cette dernière scène ce qu'il avait annoncé à Capharnaüm pendant son discours sur le pain de vie. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair, boit mon sang, à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que nous sommes convaincus de cette parole? Qu'en mangeant sa chair, en buvant son sang, nous avons la vie éternelle. Absolument. C'est toute sa prédication, c'est le miracle de la multiplication des pains, c'est le discours sur la vigne, dont nous sommes les serments, qui va se trouver son actualité, sa réalisation, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. L'agneau immolé. L'icône de la Sainte Trinité de Roublev nous montre en son centre une coupe contenant un agneau. Et les deux personnages, celui de droite et celui du centre, font un geste en direction de la coupe, pendant que le troisième personnage de gauche reste immobile. On reconnaît d'une part le père, qui par son immobilité commande la scène, et deux personnages expriment sa volonté, leur consentement. La scène est d'une extraordinaire densité. On voit au centre une coupe dans laquelle on distingue un agneau. Qu'est-ce que cet agneau ? Quel sens a cette coupe ? Eh bien, nous lisons dans la première lettre de Saint-Pierre : Vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ. Discernez avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. 1 Pierre 1, 18, B, 20. Saint Pierre voit donc dans le Christ, dans la forme d'un agneau, et cela dès avant la fondation du monde. Saint Paul, de son côté, décrit le mystère en ces termes semblables. Le mystère de la croix qui reste caché depuis les siècles et les générations et qui vient d'être manifesté à ses saints, c'est le Christ, parmi vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26, 27. Et cet agneau, est d'abord sans reproche, sans tache. Il est sans reproche. Il est sacrifié dans le temple. Il devait être sans défaut, ni malade, ni taré. C'était une exigence du sacrifice de l'agneau pascal. Sans tache. Il n'est pas atteint du mal, quel qu'il soit, moral. Il c'est un agneau pur, un innocent. On immolait les agneaux le vendredi soir pour les manger au soir de la Pâque, et c'est à ce moment-là que Jésus meurt sur la croix. Pendant que les prêtres immolent les agneaux au chant du psaume 135, car éternel est son amour. Le rapprochement entre Jésus mourant au même moment où a lieu le sacrifice avec l'agneau innocent s'est imposé à Saint Jean, qui a vu d'autres signes pour ce rapprochement. Les serviteurs d'Isaïe, maltraités, qui s'humiliaient, qui n'ouvraient pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Devant tous les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Isaïe 53, 7, que nous reprendrons tout à l'heure. Et Saint Jean voit aussi le coup de lance qui ouvre le côté du Christ, d'où s'écoule sang et eau, et rapproche ce fait du texte de Zacharie, et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Zacharie 12, 10. Autre événement encore, on ne rompt pas les jambes de Jésus comme le fit pour les deux larrons aux côtés de Jésus. Il ressemble donc bien à cet agneau pascal qui n'a pas les os rompus. Dans la conception juive, les os représentent le squelette qui reste l'identité du mort en attente de la résurrection. Et plus encore, la lance perce le cœur de Jésus. le cœur, qui est le centre de la personne, notre moi intime, le lieu de nos pensées, de nos actes, donc du dessein de Dieu, le Père, sur chacun de nous, qui est exprimé au cœur même de notre cœur. Et c'est là où se fige la lance du soldat, et c'est là aussi, en union avec le Christ, que nous recevons la blessure d'amour au cœur même de notre cœur. La lance, en blessant le cœur du Fils, a blessé le cœur du Père. C'est le projet même du Père qui est atteint. En créant les êtres spirituels, anges et hommes, et l'univers, Dieu avait voulu s'associer ces créatures spirituelles en leur faisant partager sa gloire. Ce projet universel, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la volonté. Et Jésus reprend à cette heure même la volonté du Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, 39. Le Père en nous donnant le Fils, il nous donne le prototype sur lequel tout a été créé, au ciel, sur terre, et chacun de nous-mêmes. Nous sommes des Christ en puissance, destinés à le reproduire en nous par notre volonté libre de réaliser ce projet divin du Père, de faire de nous des fils de Dieu. Saint Paul dit, le Père nous a bénis dans le Christ et nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints, immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Éphésiens 1, 3, 4. Nous portons donc au fond de nous-mêmes cette volonté absolue du Père de faire de nous des fils de son amour. Et de cette façon, la volonté du Père, en lui donnant le Fils, est que aucun des hommes ne se perde. Et Matthieu 18, 14 reprend une parole de Jésus. On ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ses petits se perde. Le Père. Cette volonté du Père est donc à l'origine de l'envoi du Fils sous la forme de l'agneau à cause du péché. Cette volonté du Père est une volonté de grâce qui veut nous faire part de l'héritage du Christ, une grâce de filiation qui nous rend participants du royaume. Et cela même avant la fondation du monde. Saint Paul en parle en termes de sagesse, c'est une sagesse mystérieuse de Dieu, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu le Père a par avance destiné pour notre gloire. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, se réalisera pour nous par la volonté du Père de faire de nous des fils de sa gloire. Le destin de Dieu, c'est une volonté, c'est un dessein de bonheur, d'amour, de bonté et rien d'autre. Ce projet de Dieu Trinité de faire partager sa gloire passe par un agneau désarmé. Mais même sans le péché, l'agneau aurait exprimé l'amour de Dieu, sa petitesse, sa vulnérabilité, son innocence, un abaissement vers ses créatures pour les associer à sa plénitude infinie. Sans le péché, l'agneau serait venu quand même, parce que nous avons besoin de lui pour connaître le Père. Dieu le Père se montre ainsi dans son Fils comme un agneau doux, humble, qui vient quémander le don de son amour. Le Père n'est qu'amour, n'est que miséricorde infinie. Il n'est rien d'autre. Il ne vient qu'émander notre amour. Un amour fou qui veut aimer, et simplement aimer parce qu'il est l'amour. Et pour cela, le Père lui-même en nous se fait petit, humble. Il s'abaisse pour toucher le cœur de sa créature. Un Dieu dont la gloire est d'offrir son amour dans un désir infini que sa créature le reçoive. Un Dieu qui quémande l'amour. Un amant qui cherche à entrer dans le cœur de son ami. Il désire être aimé. Il n'est que désir d'enflammer son amour dans sa créature. Il n'est d'autre désir que de lui communiquer tout le bien qu'il est lui-même, car il est le bien, le souverain bien, comme le dit saint François. Il ne vient pas donner, mais se donner. Il est l'amour. Ce Dieu d'amour peut être dit un agneau, parce que l'agneau représente d'une certaine façon sa pauvreté. Il représente la vulnérabilité. Comme l'enfant nouveau-né des hommes n'existe que par l'amour et le soin de ses parents, Dieu se fait l'agneau. Dieu se fait le petit. Dieu entre dans la plus profonde pauvreté de notre être. Il n'y aurait pas eu besoin d'immolation si l'homme avait ouvert son cœur à la venue de ce Dieu agneau. L'homme serait entré comme Marie dans le cœur de Dieu pour y boire sa gloire. L'homme aurait appris les merveilles infinies du cœur du Père et se serait mis à l'école du Fils. Le Fils aurait toujours été le chemin de l'amour, grandissant, s'émerveillant, allant de gloire en gloire dans le monde de lumière, dans le mouvement incessant de l'esprit qui est l'amour même. L'agneau immolé a été discerné avant les temps pour être l'agneau de l'amour glorieux, le visage même du Père. Mais il s'est passé, nous le savons, dans le monde angélique, un refus de l'amour humble. Et ce drame s'est répercuté chez l'homme. Le premier couple a pris le chemin de la rupture en se laissant pervertir par le Satan révolté contre Dieu. Et c'est ainsi que l'agneau, discerné avant tous les temps, est devenu l'agneau immolé au commencement du monde. L'Apocalypse parle même d'un agneau égorgé. Le livre de vie de l'agneau égorgé dès avant la fin de la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Et cela pour notre salut, comme le dit le Credo, il descendit du ciel. Et en tant que Père, Dieu est blessé dans l'homme. Il avait créé l'homme pour son bonheur. La parabole de l'enfant prodigue montre que le Père est blessé dans le Fils. Le Père reste celui qui aime et qui, quoique blessé, veut le bien de sa créature et donne son Fils pour la réaliser. La blessure du Père est un surcroît d'amour envers sa créature. Saint Paul dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Romains 5, 20. Dieu est plénitude. La souffrance est toujours un manque. Dieu ne peut pas souffrir comme nous. Il est comme nous, qui sommes des créatures, puisqu'il est la plénitude de l'être. C'est le mystère de l'amour de la souffrance, d'amour du Père. En nous détournant de lui, notre Père, et en refusant ses dons, nous blessons son amour. Et c'est son Fils qui va exprimer cette blessure d'amour en devenant l'agneau immolé, égorgé, avant la fondation du monde. Et Pierre dit bien, en 1 Pierre 2, 24, « C'était nos péchés qu'il portait sur le bois. » En voyant le Fils humilié, défiguré sur la croix, on voit la blessure d'amour du Père, puisque la croix est le refus de Dieu de son amour. Le cœur ouvert du Christ en croix est la réalité visible de l'amour invisible du Père. Contempler le Christ en croix, c'est contempler l'amour du Père. C'est dans la scène de l'agonie que se révèle le drame de l'amour refusé qui a fait le mystère de l'agneau immolé pour la vie et le salut du monde. Lui qui était discerné dès les origines est devenu l'agneau pour nous immolé. Alors se pose la terrible question du refus de Dieu, c'est-à-dire de la damnation. Pour Jésus, le triomphe de Satan qui détourne l'homme de Dieu, c'est l'échec d'une certaine façon de Dieu. Et Judas représente tous ceux dans l'histoire qui se lèvent contre Dieu, tous ceux qui refusent la rédemption que Jésus est venu apporter. Comme par un dernier acte d'amour, Jésus a donné encore à son disciple le titre d'ami, ami, fais ta besogne, au moment où Jésus même est livré. Matthieu 26, 50. Judas est resté sourd à cet appel, ce dernier appel du baiser de la parole de Jésus, « Ami, fais ta besogne. » Ami. Il s'est enfoncé lui-même dans les ténèbres du refus de l'amour. Et Jésus ne pourra rien contre cette volonté qui agit librement. Dieu ne pourra jamais convertir par l'extérieur, puisqu'il a donné à l'homme la liberté qui fait que nous sommes un homme par la liberté. L'angoisse de Jésus au jardin de Gethsémani a été d'une certaine façon d'embrasser cet enfer qu'il voit dans tous les siècles, tous les refus de Dieu. Et la question angoissante pour les cœurs, pour nous-mêmes, qui nous unissons au cœur du Christ, c'est cette question des damnés. Est-ce que ce sacrifice, qui est absolument le sacrifice de Dieu, dont on ne peut pas mesurer l'importance, l'immensité, ce sacrifice pourrait-il sortir vraiment encore ceux qu'il a, que le Père a créés, pourrait-il les sortir de leurs enfers? Pourrait-il convertir les démons? C'est une question angoissante pour des cœurs qui s'unissent au Christ, au cœur du Christ. Qu'il y ait des damnés, l'Église nous le dit, c'est évident. Où sont-ils? Depuis l'œuvre de la rédemption du monde, ils sont dans un certain espace de son amour, malgré tout, puisqu'il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un espace. Satan a perdu le sien, d'une certaine façon. Il est sans lieu, sans espace. Il est obligé, qu'il le veuille ou non, d'être dans l'espace du Christ. Il n'y a qu'un espace. C'est le corps du Christ. Il n'y a qu'une rédemption, c'est le Christ. Et peut-être, s'il se déchaîne à notre temps, c'est parce que c'est peut-être son heure dernière. Et c'est aussi parce que c'est le moment de rendre le compte, peut-être. Parce qu'il ne peut que réaliser cette réalité-là, qu'il n'y a que le Christ a vaincu, qu'il n'y a plus qu'un espace, un seul espace. C'est l'espace du Christ dans lequel nous allons connaître la gloire du Père. Il n'y a rien d'autre que le Christ. Et l'amour ne cessera de saisir nous laissons là ce mystère, mais je crois que dans chacun de nos cœurs, c'est une réalité vivante de nous poser toujours cette question par rapport à et celui-là, est-ce qu'il va être sauvé? Nous portons dans le Christ cet amour infini du Père. Et c'est tout ce qui fait notre vie de prière, notre vie de la rédemption du monde. Saint François disait, l'amour n'est pas aimé. Et c'est vrai que quand on le voit bien, l'expérience que nous avons des uns et des autres, que quand on a cessé d'aimer, on haït. C'est donc pour chacun un appel à la vigilance. Ne pas laisser en nous des pousses venimeuses prendre racine dans notre cœur. Les chasser par le sacrement de la réconciliation. Prier le Saint-Esprit, qui est l'amour, pour la purification continue de notre cœur, pour entretenir en nous tous les jours le combat de la pureté du cœur. C'est par l'amour et non pas par les armes qu'on détruit la haine. Heureux ceux qui sont capables de pardonner. Ils sont vraiment les bénéficiaires de l'amour.